Rodolphe Bringer, le perroquet gris. Ce matin-là, je m'éveillais d'une humeur charmante. En ouvrant ma fenêtre, un rayon de clair soleil éclaira ma triste chambre de garçon, et mon cœur en même temps s'irradia de joie. C'est qu'une partie de plaisir était projetée pour ce jour-là. Je dois vous dire qu'à cette époque, j'étais l'heureux fiancé de Mademoiselle Marguerite Motteville, ma femme aujourd'hui, grâce à Dieu. Mademoiselle Marguerite Motteville était orpheline et demeurait chez son oncle, l'honorable M. Potiron, le gros marchand de denrées et coloniales dont vous n'êtes pas sans avoir entendu parler. Or, ce jour-là, comme j'ai déjà eu l'honneur de vous le dire, on avait projeté une partie de plaisir, ce qui me réjouissait l'âme, car je me trouverais pour toute la journée auprès de ma chère Marguerite, que j'adorais, et que je n'ai pas cessé d'adorer d'ailleurs, je ne suis pas fâché de vous l'apprendre. Je m'éveillais donc d'une humeur charmante, m'habillais et sortis de chez moi. Justement, l'autobus passait, un des derniers autobus impérial. J'y grimpais et, détail qui a son importance, j'escaladais l'impérial sans être vu par le conducteur, fort occupé à l'intérieur à recevoir le prix de ses places. L'impérial était vide, ce qui peut paraître extraordinaire, étant donné le beau temps qu'il faisait. Je ne cherche pas à expliquer ce phénomène, je constate simplement que pour mon malheur, j'étais le seul voyageur de l'impérial. Mais je ne m'en inquiétais guère, pas plus d'ailleurs que de l'incident nouveau qui fit que mon autobus, abandonnant son itinéraire ordinaire, tourna brusquement à gauche, suivant un dédale de rues étroites et sales, où, sur l'honneur, je passais bien pour la première fois de ma vie. J'insiste sur ce point. Ces ruelles étaient si étroites qu'en étendant le bras, je pouvais toucher les murs des maisons qui les bordaient. Hélas, oui. Or, il advint ceci. J'aperçus, appendu à une fenêtre, une cage où sommeillait un animal quelconque, et j'eus la fâcheuse idée d'étendre la main pour agacer au passage le susdit animal. Hélas, trois fois hélas, mon doigt, ainsi tendu, s'enfila au travers de l'anneau de la cage dorée. Je ne pus l'en dégager, et l'autobus, filant toujours, le malencontreuse cage se trouva décroché et suspendu à mon doigt. Tout d'abord, la chose m'amusa fort. Je vous l'ai dit, j'étais d'une humeur charmante, et cet imprévu détail n'était point fait pour ternir ma gaieté. D'ailleurs, pouvais-je prévoir tout ce qui devait en résulter? Je posai donc la cage sur mes genoux, et je m'aperçus qu'elle retenait prisonnier un superbe perroquet gris de l'espèce la plus particulière. Étonné par ce brusque rapt, la bestiole demeurait muette d'effroi, tout son plumage hérissé, et me regardait de côté avec un drôle de petit œil rond et chevaré. Il était si drôle que je ne pus m'empêcher d'éclater de rire. Mais tout à coup, je songeais que je venais de commettre là un vol, somme toute. Cette pensée arrêta mon intempestive joie. Mais bah, un vol, c'était là bien un gros mot. Les propriétaires du perroquet n'avaient qu'à suspendre leur cage plus solidement. D'abord, et puis, à ne pas l'accrocher ainsi, à portée de la main du premier passant venu. Enfin, personne ne m'avait vu, et une faute ignorée n'est pas une faute. Mais qu'est-ce que j'allais faire de cette bête? Car je ne pouvais ainsi la trimballer tout le long du jour avec moi. Et avec cette cage sur mes genoux, je commençais à me sentir un peu ridicule. Heureusement que j'étais seul sur l'impérial. Mais je sursautais. Je venais d'entendre quelqu'un qui grimpait les marches, et tout aussitôt je pris l'air le plus digne qu'il me fut possible de prendre. Ce n'était que le conducteur. Or, il parut étonné de me trouver là. « Tiens, je ne vous avais pas vu monter, » fit-il. « Ah ben, vous étiez occupé à l'intérieur, » répondis-je. « Il n'y a donc rien d'étonnant à cela. » Mais tout à coup, le bonhomme m'apparut s'hypnotiser sur la cage dorée qu'il venait d'apercevoir sur mes genoux. Oh, fit-il, voilà un bel oiseau. N'est-ce pas? Répondis-je, n'osant pas confesser de quelle ridicule façon cette cage était en ma possession. Oui, c'est fort curieux, je possède un perroquet absolument semblable à celui-là. Ah, vraiment? Oui, absolument semblable. Généralement, ma femme l'accroche à la fenêtre, mais peut-être l'avez-vous aperçu en passant. Je pâlis. Un horrible soupçon m'effleura. Mais où demeurez-vous? Demandai-je haletant. Du pas de la mule, l'autobus vient d'y passer tout à l'heure, bien que ce ne soit pas son parcours. Mais il y avait un encombrement, et pour ne pas perdre de temps, le chauffeur a fait un détour. Il n'y avait pas d'erreur. C'était son perroquet. J'avais volé le perroquet du conducteur. Quelle horrible situation! Mon sang ne fit qu'un tour. Comme si elle comprenait ce qui se passait, l'horrible bête se mit à pousser des cris affreux, battant des ailes et redressant ses plumes. Oh, je l'aurais étranglée! Le conducteur, cependant, hochait la tête. Ben, c'est une fameuse bête, dit-il, en manière de conclusion. Et il descendit. Tout cela m'avait tellement secoué que la pensée ne m'était même pas venue de tout lui avouer. Maintenant, il était trop tard. Qu'allais-je faire de ce sale oiseau? D'autant plus que j'approchais maintenant du lieu de notre rendez-vous. Ben, pensais-je. Je vais entrer dans un café, je prierai le patron de vouloir bien garder la cage pendant quelques instants. J'aurai bien garde de revenir et le tour sera joué. Car enfin, je ne pouvais pas me promener toute la journée avec cette cage à la main. Et c'était là un accessoire dont un fiancé n'a guère coutume de se prémunir. Je descendis donc de l'autobus et déjà j'avisai le café qui allait devenir l'heureux propriétaire de mon affreux perroquet gris, quand tout à coup. Hey, mais c'est mon vieil ami Gaston! Fit une voix derrière moi. Je me retournai et me trouvai en présence de Gilou, un vieil ami, mais terriblement bavard, râbleur et moqueur. Oh, c'était bien la dernière personne que j'eusse désiré rencontrer. Hey, qu'est-ce que vous portez là? Dit-il en désignant la cage. Ça, c'est un perroquet, répondis-je. Parbleu, je vois bien que c'est pas un éléphant. Qu'est-ce que vous voulez faire de ce perroquet? Ben, c'est pour un cadeau. Je viens justement de l'acquérir. Ah, une occasion, peut-être. Oui, une occasion. C'est vous qui l'avez dit. As-tu déjeuné, Jaco? Fit-il en s'adressant au perroquet. Et à moi, parle-t-il? À vrai dire, je l'ignorais, mais à ce moment, ce qu'avait dit le conducteur me revint en mémoire et je répondis: Bon, c'est une fameuse bête. Il a bien l'air, riposta Gilou. Et avec un air narquois, il ajouta: C'est sans doute pour qu'il tienne compagnie à votre fiancée avant votre mariage. Oui, répondis-je énervé, c'est un cadeau pour ma fiancée. Bonsoir, je suis très pressé. Et je lui secouai violemment la main. Mais lui m'arrêta. Tenez, voici justement votre fiancée qui arrive vers nous. Et en effet, c'était Marguerite elle-même qui s'approchait, impatiente de me voir plus tôt, sans doute. Et j'avais toujours à la main cette ridicule cage. Mais cela n'était rien encore. Est-ce que cet idiot de Gilou ne s'inspira pas de dire: Tenez, mademoiselle, regardez donc le joli perroquet dont Gaston veut vous faire cadeau. Oh, l'imbécile, je l'aurais tué. Mais que faire? Déjà, Marguerite, de la joie plein les yeux, s'écriait: Comment, Gaston, vous avez pensé à moi? Vous voyez, oui. Oh, vraiment, aucun cadeau ne pouvait me faire plus de plaisir. Car vous savez que j'adore les oiseaux. Ce perroquet est vraiment bien joli. Mais vous ne comptez pas, je suppose, vous promener toute la journée avec cette cage au bout des doigts. Certes, non, nous allons le porter chez vous, si vous le voulez bien. Au revoir, mes enfants, s'écria Gilou. Je vais prendre le train. Amusez-vous bien, et surtout, soignez bien votre perroquet. Et il s'en alla, nous laissant Marguerite et moi plantés sur le trottoir. La vue d'un jeune homme en chapeau de forme, redingote, gants clairs et souliers vernis, portant une cage, est sans doute un spectacle fort peu commun et très propre à intéresser les foules, car bientôt nous avions un petit rassemblement autour de nous, et même quelques jeunes garçons, pleins d'esprit ou plus avides d'en faire, montrent publiquement, commençaient à plaisanter. Cela ne pouvait durer. Un fiacre passait à vide, je hélai l'automédon, fis monter Marguerite, qui installa la cage sur ses genoux, et fouette cochée. Jusque-là, le fâcheux perroquet gris avait paru insensible à tout ce qui se passait autour de lui. Mais dès qu'il sentit le chaos de la voiture, peu habitué sans doute à ce genre de locomotion, il se mit à pousser des cris perçants. Si ces cris n'avaient été désagréables qu'à nous-mêmes, il n'y eut que demi-mal, mais le malheur voulut qu'il portasse, paraît-il, sur les nerfs du cheval qui nous conduisit. Et il s'ébrouait, piaffant, sautant dans les brancards, menaçant de tout casser, et faisant une telle vie qu'il se vit assurément tenu plus calme s'il avait eu 18 000 diables après ses trousses. Cependant, le cocher se pencha. Est-ce que vous ne pourriez pas faire taire votre sale bête? C'était facile à dire, mais comment faire? Nous y tâchâmes en vain. Ce fut en pure perte que cette bonne Marguerite épuisa la liste des mots aimables que l'on peut dire à un perroquet. Rien n'y fit. Enfin, une idée me vint. Je retirai ma redingote et la jetai sur la cage. L'effet fut foudroyant. Et l'oiseau se tut comme par enchantement. 5 minutes après, nous arrivions chez l'oncle de Marguerite. L'honorable monsieur Potiron et sa digne épouse étaient prêts à partir, et déjà s'impatientaient de ne pas nous voir arriver. Oh, enfin vous voilà! S'écria monsieur Potiron, comme nous pénétrions dans le salon. Mais il s'arrêta stupéfait de me voir arriver en bras de chemise. C'était un homme respectable, ayant passé toute sa vie dans une épicerie, et qui bien certainement eût inventé la correction si elle avait été créée avant sa naissance. Il fronça le sourcil, prêt à me foudroyer, mais Marguerite, bien vite, « Voyez, mon oncle, le joli cadeau que vient de me faire Gaston! » Et elle découvrit la cage qu'elle posa sur un guéridon. Monsieur Potiron assujettit son lorgnon sur son nez, approcha, et après un examen minutieux, déclara: C'est un perroquet. En effet, c'est un perroquet, avouai-je. Parle-t-il? J'allais répondre, mais la vilaine bête ne m'en laissa pas le temps. Soit que ma redingote enlevée de sur la cage lui fît croire que le jour était venu et qu'il était temps de s'éveiller, soit qu'il voulût montrer ses talents à l'honorable société qui l'entourait et le regardait curieusement, soit tout autre chose, le perroquet gris se mit à parler. Hélas, trois fois hélas! Complet à l'intérieur, une place à l'impérial, passez votre correspondance. Tels furent les premiers mots qui sortirent de son gosier bien éduqué. Et tandis que l'on riait à la ronde, je pensais qu'il n'y avait aucun doute et que ces seuls mots prouvaient bien que c'était là le perroquet du conducteur d'autobus. Son éducation trahissait son origine. Hélas, s'il n'avait eu qu'un conducteur d'autobus pour professeur, ce n'eût été que demi-mal. Par malheur, quelques cochers devaient avoir collaboré à son instruction, car tout à coup, encouragé sans doute par la joie qu'il venait de provoquer, le fâcheux perroquet gris se mit à hurler. Va donc, et fourneau! Outil! et autres aménités semblables. Puis tout le chapelet y passa, tout ce qui se dit dans le monde des écuries, des cochers et des palefreniers. Du coup, l'honorable monsieur Bottiron se fâcha. Et tandis que son respectable femme et sa pupille se retiraient dans un coin de la chambre, les mains pudiquement posées sur les oreilles, « Mais monsieur, quelle est cette plaisanterie ?» m'objecta sévèrement l'honorable vieillard. J'étais confondu, contendu et atterré. « Mon cher monsieur, excusez-moi, je ne suis point coupable, je vous jure, j'ai acheté cet oiseau sans me douter qu'il possédât un pareil répertoire. »« Eh bien, si j'ai un conseil à vous donner, monsieur, c'est d'aller rendre cette horreur d'oiseau à celui qui vous l'a vendu. Je n'abriterai pas plus longtemps sous mon toit un pareil goujat. » Et fort dignement, monsieur Potiron se retira dans son honorabilité froissée. Oh non, jamais on ne se doutera combien un honnête homme peut être gêné par la possession d'un perroquet au long de sa cage. Qu'en faire? Le porter à la fourrière? Oui, j'y pensais. Mais si l'on m'interrogeait, sans doute pouvais-je avouer que ce perroquet, somme toute, je l'avais volé. Quelle horrible situation! Enfin, j'eus un éclair d'en haut. Je saisis la cage et, comme un fou, je me dirigeai vers la rue où, ayant un fiacre, « Qu'est de la mégisserie ? » hurlai-je. Je venais de me souvenir que c'était là que se trouvaient tous les oiseleurs de Paris. Mon parti était pris. M'arrêter devant la première boutique et là envoyer le cocher porter la cage et son fâcheux habitant en disant « Voici ce qu'on m'a chargé de vous remettre, on passera pour s'entendre avec vous, puis ne jamais plus passer par là. » Le plan était machiavélique et je ne voulais pas douter de son succès. En effet, arrivé au quai de la Mégisserie, j'arrêtai mon sapin devant la boutique d'Oiseleur qui me parut la plus confortable et je donnai mes instructions au cocher. Anxieux, j'attendis dans la voiture. Mais il n'avait pas fait deux pas que tout à coup, il était arrêté par une dame traînant par la main un petit garçon éploré. Que se passait-il encore? Hélas, le méchant destin qui me poursuivait depuis le matin me réservait cette dernière avanie. Et m'étant approché, j'entendis cette conversation. « Maman, maman !» disait le petit garçon en désignant la cage. « Regarde, c'est notre cage et notre jaco !»« Mais c'est vrai !» dit la mère. « On nous l'a volé, je te l'avais bien dit. Où avez-vous trouvé cet oiseau ?» demanda la femme au cocher ébahi. « Moi ?»« Oui, répondez. Où je vous mène chez le commissaire ?»« Mais, voleur, filou !» Déjà, un rassemblement se formait autour du groupe. Je jugeais à propos d'intervenir. Et de l'air le plus naturel du monde, comme un que ces choses ne regardent pas. « Rendez donc ce perroquet à cette dame, puisqu'il lui appartient !» fis-je au cocher. Il me regarda ébahi. « Mais monsieur, puisque... il n'y a pas de puisque... » l'interrompis-je. « Ce perroquet appartient à cette dame, rendez-le-lui !» À moins que vous ne préfériez être traîné devant les tribunaux. Sûrement, à cette heure, le pauvre cocher pensa devenir fou. Il me regarda, foudroyé, puis son regard tomba sur la cage et finalement vint se poser sur la femme et sur l'enfant. Que se passa-t-il dans cette minute, je l'ignore. Mais le fait est que, brusquement, il tendit la cage à sa propriétaire. Puis fendant la foule comme un insensé, il courut vers sa voiture, fouetta ses chevaux et disparut. La foule entourait la femme du conducteur, toute heureuse d'avoir retrouvé son perroquet, et commentait l'événement. Et je vous laisse à deviner si le commentaire était flatteur pour le noble disparu. Pour moi, tout heureux d'être débarrassé de mon fâcheux volatile, je me dirigeais paisiblement vers l'Oiseleur. Où j'acquis pour quelques francs un superbe écureuil. Une demi-heure après, j'étais de retour chez l'honorable M. Potiron, qui voulut bien me pardonner et même décida sa nièce à accepter l'écureuil que j'avais dit avoir échangé contre le perroquet. Oh, qu'on a donc bien fait de supprimer les impériales d'autobus !